Ce matin, dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai choisi de partager avec vous, parce que c'est un baptême, certes, mais ce sont aussi les journées européennes du patrimoine ce week-end, et il m'a semblé intéressant de méditer sur les murs qui nous entourent, ceux dans lesquels nous venons prier. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, les versets 22 à 28, il est écrit « Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit « Homme d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains, pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin, de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est également ce qu'ont dit quelques poètes, quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa lignée. Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains en tout lieu de changer radicalement, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice, par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, certains se moquèrent, et d'autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul sortit au milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, Denis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Chantons ensemble « Roi des anges ». Le 190 dans les louanges et prières, 1, 2, 3 et 4.
Oh.
prions ensemble. Seigneur, éclaire-nous au moment où nous écoutons ta parole à travers les mots anciens de la Bible. Permets que ce témoignage arrive jusqu'à nous avec toute la fidélité dont nous pouvons faire preuve dans la foi. Donne-nous, Seigneur, ta parole pour aujourd'hui. Amen. Dieu n'habite pas ici. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, dit Paul. Alors que nous nous réunissons pour louer Dieu dans les temples chaque dimanche, Paul, exaspéré par la multiplicité des sanctuaires qu'il découvre à Athènes, soutient que ce n'est pas là qu'il faut le chercher. Quitte à adopter les codes religieux des Athéniens pour leur parler. Paul explique aux Athéniens, quand il prononce son discours au milieu de l'Aréopage, que le Dieu du ciel et de la terre n'est pas enfermé entre quatre murs. Extraordinaire communicant, Paul se sert d'une chose qu'il a remarquée en passant devant les multiples sanctuaires dédiés à des divinités du panthéon grec. Il existe un temple au Dieu inconnu. Cette découverte donne à Paul l'opportunité de parler de son Dieu et de le faire entrer dans cette place qui n'est pas encore attribuée, qui n'est encore attribuée à aucun Dieu connu. Puisqu'il y a un vide, Paul va tenter de l'occuper avec le Dieu de Jésus-Christ. La tentative est audacieuse. Paul ne doute pas que les Grecs puissent croire enfin que ce Dieu inconnu a trouvé un nom. Le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu du changement radical, apporté par un homme qu'il a relevé d'entre les morts. Dans son discours, Paul use du langage propre à le rapprocher des philosophes d'Athènes. Pour parler du Dieu créateur, il se garde bien de parler d'Adam et parle plutôt d'un être qui serait à l'origine de toutes les nations humaines. Il parle non pas de promesses ni d'accomplissements, mais plutôt de temps fixé et de limites, reprenant ainsi les grandes catégories de la pensée, le temps et l'espace. Si le Dieu inconnu est maître de ces catégories, et s'il est créateur du ciel et de la terre, alors sans doute sera-t-il digne d'intérêt pour les sages qui siègent à l'Aréopage. Paul ne parle pas non plus de foi ni de justification de l'homme pécheur, mais d'un Dieu qui crée l'homme pour qu'il le cherche, comme les chercheurs de l'Aréopage. Tout en doutant qu'on parvienne, même en tâtonnant, à le trouver. On est loin du Paul convaincu exalté par la présence de Dieu en lui. Paul s'adapte, peut-être même jusqu'à la démagogie un peu. Mais l'idée qu'il veut faire passer ne passera pas. La résurrection ne séduit pas l'aréopage. Le ressuscité ne prendra pas la place du Dieu inconnu. Paul se retrouve seul. L'auditoire s'en va et le texte signale que quand même quelques-uns s'attachent à lui, et notamment un certain Denis l'aréopagite, que le Moyen-Âge a voulu confondre avec le philosophe mystique de l'ineffable, théologien qui ne nommait Dieu que par des formules négatives. Mis à part ces rencontres, dans l'ensemble, c'est un ratage. Les Athéniens garderont leur panthéon et continueront à garder une place pour le Dieu inconnu, tout ça pour éviter d'offenser un Dieu par ignorance de son existence. Pourtant, Paul est allé très loin sur le terrain des Grecs auxquels il s'adresse. Il cite l'œuvre d'un poète originaire de la même région que lui, la Cilicie, Aratos de Solès, auteur du poème sur l'astronomie et la météorologie, qu'on appelle les phénomènes. Il cite particulièrement ce vers « Nous sommes aussi de sa lignée ». Dans le poème, il s'agit de la lignée de Dieu, de la divinité, pour dire que l'homme est de la même nature. Et ce n'est pas un hasard si Paul choisit ce poème. En effet, une partie du poème est consacrée à la théorie de la catastérisation. Derrière ce mot compliqué se cache en fait une idée très poétique selon laquelle les choses, les personnes ou les êtres mythologiques peuvent se métamorphoser en constellations ou en étoiles, atteignant ainsi l'immortalité. Ce n'était pas une idée isolée et originale chez Aratos de Solès. Les pythagoriciens, par exemple, croyaient à l'immortalité astrale. Par bien des côtés, Paul rencontre les problèmes de tout prédicateur, de tout croyant parlant de son Dieu. Comment dire l'ineffable? Comment décrire et faire connaître ce Dieu que personne n'a jamais vu, qui me parle et qui ne me parle qu'à travers les mots humains, qui s'est voulu cacher et qui en même temps se révèle à travers la foi des hommes, et dont pourtant tant d'hommes aussi ont le sentiment de la présence en eux sans pouvoir bien dire qui il est. Les Athéniens ont une façon trop anthropomorphique de comprendre leur Dieu pour entendre ce que Paul leur dit. La création par le souffle divin, l'immortalité par la résurrection, la prédiction d'une fin du monde si chère à Paul, toutes ces notions vont à l'encontre d'une conception trop humaine de la divinité. Dès que Paul parle de la résurrection d'un homme envoyé par Dieu, les Athéniens s'en retournent à leurs affaires. Qu'est-ce que cette histoire aurait d'intéressant si ce Jésus n'est même pas un héros? Si le monde des morts et celui des vivants commencent à s'entremêler, que reste-t-il de la notion de divin? Que seront les dieux de la mythologie? Paul représente par son discours la confusion des genres. Il mêle l'infini de Dieu à la limite de l'espace où vivent les hommes. Il parle d'un temps fixé où s'accomplirait l'œuvre d'un Dieu éternel. Il parle d'un Dieu inconnu et qu'il faut chercher tout en disant que de lui qu'il est révélé aux hommes par un homme. Bien sûr, les dieux grecs descendent de temps en temps dans le monde des humains pour se jouer d'eux, pour profiter de leur charme, mais croire en un dieu qui se fait homme pour revenir à une deuxième vie parmi les hommes, c'est un peu difficile et très peu intéressant pour les Athéniens. Décidément, Paul avait raison, Dieu n'habite pas dans les temples. Et même les temples grecs sont trop étroits pour contenir le divin dont il parle. Comment se laisserait-il contenir ce Dieu dans des murs de pierre? Pourtant, les Grecs, comme les chrétiens, ont construit des temples pour rendre un culte à leur Dieu. Dans quel but? Comment parler de l'infini dans un lieu limité par des murs? Comment imaginer rencontrer Dieu plutôt dans un temple ou une église qu'au contact du ciel, du vent ou de la mer, comme le préconisait Jean-Jacques Rousseau? Peut-être les murs et leur architecture ne nous apprennent-ils pas grand-chose sur ce qu'est Dieu, ni sur ce qu'il est vraiment pour nous. Peut-être même est-ce dans les temps troublés où les croyants persécutés n'ont plus de temple pour prier leur Dieu qu'ils se rapprochent le plus sûrement de ce qu'il est vraiment pour eux. Comme ces parpaillots, papillons de nuit, enveloppés dans leur cape noire, allant à la nuit tombée prier dans des cultes clandestins au creux des montagnes cévenoles, bravant l'interdiction de culte et risquant leur liberté ou leur vie pour quelques psaumes et quelques paroles édificatrices. Là, dans le vent, sous les châtaigniers, ils avaient sans doute le sentiment d'être infiniment proches de ce Jésus désarmé, de ce Dieu son Père, sans nulle part où reposer sa tête, cet homme sans défense, n'ayant pour armure que sa parole de foi. Pourtant, toujours les Huguenots, en France comme dans les pays de refuge, se sont battus pour obtenir qu'on leur donnât un lieu de culte et qu'on les laissât prier, chanter et méditer la Bible dignement entre quatre murs. Pourquoi ? Alors que ce qu'ils professent, c'est que chacun a une relation intime et directe avec Dieu, ont-ils cherché à gagner ces murs autour d'eux pour le prier ? Pourquoi cet entêtement de la part de ceux qui savent si bien célébrer les mariages dans les champs de blé, rendre grâce à Dieu pour la résurrection de leurs défunts directement dans les cimetières et organiser leur culte quotidien dans leur salon avec leurs voisins, dans la fraternité du lieu domestique ? C'est peut-être que les murs ne sont pas de simples cloisons pour les protéger du monde. Sans doute les murs de nos temples ont-ils une fonction plus forte que la seule protection des intempéries et des bruits du monde qui nous entoure. Le lieu dans lequel nous nous trouvons dit, par sa particularité même, le parcours de foi de tout un peuple de croyants qui ont été tour à tour accueillis, déménagés, frappés d'interdits, puis installés là où les autorités civiles ou religieuses voulaient bien qu'ils soient. Ballottés au gré de la grande histoire, les protestants se sont installés là où on leur faisait de la place pour obtenir la dignité d'un lieu de culte décent. Venir ici prier dans l'oratoire du Louvre, c'est venir entre des murs qui ont entendu prêcher le cardinal de Bérulle, tenant de la contre-réforme, extraordinaire quand même. Sur le néant, il priait, sur le néant de l'homme capable de Dieu. Venir ici, c'est s'asseoir dans les stalles qui étaient déjà là-bas, dans l'église Saint-Louis du Louvre, pour les obsèques d'Anne d'Autriche. C'est penser à ces protestants patients, acceptant de récupérer les églises que les autres n'utilisaient plus, à condition qu'on les laisse enfin exister librement et légalement. C'est imaginer les décors de l'opéra, du vaudeville et du théâtre français, stockés entre ces murs avant que l'on décide que le lieu deviendrait le temple protestant de l'oratoire du Louvre. Pensez un peu. Les murs de pierre, malgré leur solidité et leur noblesse, signifient parfois la précarité de ceux qui les habitent, toujours nomades, toujours installés dans un camp provisoire. Les protestants, comme tous les croyants, se savent de passage, dans ces lieux comme dans cette vie. Mais ils transportent avec eux un bagage symbolique qu'ils montrent à leurs enfants et transmettent d'âge en âge comme un patrimoine immatériel. Installer sa prière, son chant ou sa prédication entre les murs d'un temple pour louer Dieu revient peut-être par bien des côtés à parler au mur. Et c'est ce qui donne cette importance incroyable à ces murs. Car les murs, ma foi, comme le disait le psychanalyste Jacques Lacan dans son intervention à Sainte-Anne, là aussi il y a beaucoup de murs, C'est fait pour entourer un vide, disait-il. Oui, les temples sont vides, comme le disait Paul aux adorateurs d'idoles, au sens où Dieu n'habite pas plus entre ses murs qu'ailleurs, dans le monde, ailleurs, nous ne savons où. Mais ce vide est comme le Dieu inconnu des Athéniens, plus signifiant que la profusion de toutes les statues de vénération de saints accumulées dans d'autres lieux de prière. Ériger quatre murs quelque part et déclarer que là se tiendra le culte rendu à un Dieu invisible et inconnu, c'est faire de ce vide un espace de conversion possible, un espace justement, un lieu où l'homme se confronte à ce qui est vide en lui. À la suite du prophète Jérémie, en reprenant une image stoïcienne, Paul ne dit-il pas que nous sommes des vases d'argile dans la main d'un potier qui nous modèle autour de ce néant si constitutif de nos existences. Pierre de Bérulle définit l'homme comme composé de pièces toutes différentes. Il est miracle d'une part et de l'autre un néant. Il est céleste d'une part et corporel de l'autre. C'est un ange, c'est un animal, c'est un néant. C'est un miracle, c'est un centre et c'est un monde. C'est un Dieu et c'est un néant environné de Dieu, indigent de Dieu, capable de Dieu et rempli de Dieu s'il veut. Tel Jésus au désert entre les anges et les bêtes sauvages, nous venons dans les temples éprouver notre capacité à résister au néant. Mêlant nos voix à l'unisson d'un cantique, d'une prière, ou écoutant le filet de voix d'un prédicateur appelé à annoncer une parole de grâce qui l'excède par son caractère infini, nous venons écouter l'écho que les murs nous renvoient de nous-mêmes, de notre condition humaine, de notre recherche de divin dans un monde qui le nie très souvent, et en même temps chercher à toute force à lui ressembler. Ce vide est bénéfique pour qui veut entendre une parole divine, pour qui veut s'élever jusqu'à la colombe de l'Esprit-Saint qui vole immuablement au-dessus de nous. Car enfin, la dérisoire tentative de représentation de Dieu se tait. Les idoles se brisent en nous et nous voilà devant Dieu, inconnus, toujours à rencontrer, toujours à chercher. Ce Dieu qui dit si difficilement son nom dans nos vies, non pas entre ces quatre murs, mais en nous-mêmes, fragiles vases d'argile, modelés par une parole de grâce qui résonne mais ne parvient jamais tout à fait à nous transformer. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je me complais, dit Dieu, au sein même du baptême du Christ. Croire que Dieu puisse se complaire en nous, croire que nous avons en nous de la place pour Dieu, que le creux si constitutif de notre existence puisse être la condition bénie et nécessaire pour recevoir le divin, voilà le défi de toute prière dans le vide de nos temples. Réunis comme les amphores vides dans la cale d'un navire qui n'aurait rien à apporter au monde, nous venons sous les voûtes en berceau de ce temple magnifique pour nous reconnaître pour ce que nous sommes, vides pour accueillir Dieu. Et en même temps, et dans le même geste d'un sacrement comme le baptême ou la Sainte Cène que nous partageons, nous partageons ce manque de Dieu en nous, même dans ces sacrements, cet inaccessible divin qui nous fait verser des larmes quand nous voyons un enfant recevoir le baptême. Entre ces quatre murs, les paroles résonnent et l'écho des voix humaines transporte un peu de la parole créatrice d'un Dieu qui tente de se faire connaître de nous. D'ailleurs, ici, dans cet édifice, nous ne sommes pas entre quatre murs, mais au milieu de mille lignes qui dessinent un espace complexe, aussi complexe que nous tous, fait d'une multitude d'espaces. Les architectes du XVIIe siècle étaient des géomètres de la gloire silencieuse de Dieu. Et ils ont pensé ce vide par la forme même des pierres taillées ici. Chaque pierre taillée ici a la rigueur d'une formule mathématique. C'est ce qui donne à ce lieu son autorité, son infini. Ineffable patrimoine. Quand nous nous battons pour nos lieux de culte, ce ne sont pas les temples en eux-mêmes que nous voulons garder, conserver ou posséder comme une gloire personnelle. Ce sont les espaces infinis qu'il crée et qui nous crée. Un lieu pour dire en creux ce que nos mots peinent à nommer. Un lieu où nous pouvons croire que tout ressuscite dans l'amour infini de Dieu, à condition qu'on y fasse de la place. Les évangiles ne commencent-ils pas après le constat d'un tombeau vide? Chaque jour, quand nous venons prier dans des lieux de culte, un jour vaut mille ans. Quand un jour vaut mille ans, quand le ciel et la terre se rejoignent, quand les anges et les bêtes sauvages servent le même Seigneur, que le jour l'annonce au jour et la nuit l'explique à la nuit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles qu'on n'entend pas leur voix, dit le psalmiste. Et pourtant quelque chose se transforme en chacun, du petit enfant au vieillard. Non, Dieu n'habite pas les temples faits des mains humaines, mais oui, il passe, tel le souffle dans les tuyaux du grand orgue, dans ces lieux vides, pour convertir en nous le néant en grâce. Amen.